Donc après ces exposés remarquables, on m'a demandé de faire une synthèse et une conclusion. Synthèse, c'est bien un grand mot. Je ne sais pas si mon propos sera une synthèse. Mais je sais une chose, c'est que j'ai un petit message sur le cœur. Et je pense que dans cette journée, on va voir qu'on a besoin de tous les dons. Et que le don le plus remarquable n'est pas forcément de toute façon équilibré. On a besoin de tous les dons, on a besoin de tous les frères, même sur un seul thème. Il n'y a que la parole de Dieu qui est équilibrée. Et plus on l'étudie, plus on voit qu'elle est équilibrée, mais nous pas. Donc, je commencerai par lire quelques versets. Et parmi beaucoup de versets de la Bible sur le thème de la parole, et par un peu par extension, la parole, l'évangile, la parole, j'ai choisi trois passages. Le premier dans la seconde épître à Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, et ceux qui connaissent la langue originale, nous disent que homme, c'est pas le mal, c'est l'être humain. Alors on peut traduire, afin que l'homme et la femme de Dieu soient accomplis et parfaitement accomplis pour toute bonne œuvre. Le second passage à la fin de l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliquait aux disciples d'Emmaüs dans toutes les Écritures les choses qui le regardent. Un troisième verset dans le prophète Isaïe, au chapitre 8, verset 20. À la loi et au témoignage, s'il ne parle pas selon cette parole, il n'y a pas d'aurore pour lui, pour le peuple. Il passera là, affligé et en faim. Et il arrivera que lorsqu'il aura faim, il se dépitera et maudira son roi et son Dieu. Et il regardera en haut, et il fixera son regard sur la terre. Et voici la détresse et les ténèbres d'obscurité, l'obscurité et l'angoisse. Et il est repoussé dans d'épaisses ténèbres. Alors, mon propos sera d'abord très général pour arriver à des choses très pratiques. Très général, j'essaierai de travailler en amont de mes frères. Vous allez comprendre, en amont. De temps en temps, c'est bien. Parce que, ici, nous avons une assemblée de chrétiens. On ne conteste pas que la Bible est la parole de Dieu. Seulement, devant le monde impie, incrédule, humaniste, c'est une autre affaire. Et on risque de recevoir dans la figure des paroles comme celle-ci. Ah bon? Tu crois ce vieux bouquin, toi? Et tu me dis que tu fondes ton salut et ton éternité sur ce vieux livre? Oh, je sais bien, il y a beaucoup de tolérance aussi dans notre monde occidental. Et il y en a qui disent, tu crois ce que tu veux, tu crois la Bible, moi ça ne me dérange pas, moi je crois ce que je veux aussi. Et on est d'accord. Et c'est ainsi que le jeune croyant, et peut-être le moins jeune aussi, peut être déstabilisé par cela. Et la grande question initiale, la question de toutes les questions, préalable à tout ce qu'on a vu, c'est « Avons-nous une révélation ?» C'est ça qui change. Et je vais travailler très en amont. Nous sommes tout petits dans la création. Nous sommes des toutes petites poussières dans la création. Et là, je vous donne quelques chiffres pour vous donner le vertige avec moi. Donc, nous savons tous qu'une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière pendant une année, à raison de 300 000 km à la seconde. Si nous pouvions voyager à cette vitesse-là, il faudrait 100 000 années semblables pour traverser notre galaxie, la Voie lactée dans laquelle se trouve le système solaire. Et notre galaxie n'est qu'une galaxie parmi les milliards de galaxies qui peuplent l'univers, le cosmos. Nous sommes perdus dans l'immensité. Nous sommes rien. Et nous sommes perdus aussi, pas seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Notre vie, c'est quoi? C'est deux petites dates avec un tiret au milieu. Nous pouvons mettre la première date parce que nous savons que c'est notre naissance. Nous pouvons mettre le tiret et immanquablement, la seconde viendra. Pour tous ceux qui sont là. C'est rien notre vie. Nous sommes perdus dans l'espace et dans le temps. Qui sommes-nous dans l'immensité du cosmos? D'où venons-nous? Où allons-nous? Est-ce que nous voguons vers un destin aveugle? Est-ce qu'il y a un Dieu qui s'intéresse à nous? Peut-être est-il indifférent, peut-être est-il pour nous, et peut-être est-il contre nous? Qui va nous le dire? Depuis des siècles et des siècles, ces questions existentielles angoissantes taraudent l'esprit des hommes, et surtout des penseurs, des poètes, ceux qui réfléchissent au sens de la vie. Est-ce que nous avons une révélation ou pas? Et là, j'essaierai de vous montrer la différence qu'il y a entre deux hommes, entre des hommes qui n'ont pas la lumière de la révélation et d'autres qui l'ont. Et vous allez voir la différence. Le premier, un grand auteur français, Henri de Monterland. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, nous sommes les chevaliers du néant. Je n'ai que l'idée que je me fais de moi pour me soutenir sur les mers du néant. Vous avez noté sa pensée? Je n'ai que l'idée que je me fais de moi pour me soutenir? Ça ne fait pas beaucoup. Cet homme est complètement dans le brouillard. Un autre homme, et pas le moindre. Pas le moindre, puisque c'est un académicien contemporain. Jean d'Ormesson, qui a à peu près 85 ans maintenant. Dans son dernier livre, c'est étrange, à la fin, le monde, voilà ce qu'il dit. Je lis quelques extraits. Que savons-nous? Grâce à la science, beaucoup de choses si longtemps ignorées, peu à peu découvertes, et presque rien. Presque tout, en vérité, sauf l'essentiel. Un enfant de 7 ans en sait plus aujourd'hui sur l'univers autour de lui et sur son propre corps qu'Aristote et Descartes. Et tous nos prix Nobel réunis n'en savent pas plus sur le temps qui passe, sur la mort, sur le sens de l'univers, sur le destin des hommes, sur une autre vie possible ou peut-être impossible qu'un gamin dur de Thèbes, de Milet ou de l'Athènes de Périclès. La vie est un rébus, une devinette, une interrogation béante, une énigme. Pour avancer dans cette énigme, aussi loin que possible, nous avons une seule ressource, notre pensée, et un seul outil, la science. Jouons carte sur table. J'ai du mal à croire que, réglé avec tant de rigueur, si évidemment fait pour durer, emporté par un temps d'une subtilité et d'une complexité extrême, et qui est le mystère même, l'univers n'ait aucun sens. J'ai même du mal à croire que la vie de chacun d'entre nous ne soit qu'une farce tragico-comique. Personne n'est capable d'échapper au vertige qui nous prend devant le monde et devant notre destin. Nous n'en finissons jamais de nous heurter à de l'incompréhensible. Tout ce que nous pouvons faire, c'est déjà immense, c'est de nous interroger sur la mort et sur Dieu. Ce qui est impossible, c'est de prétendre que les choses sont comme elles sont et que nous n'avons pas à nous poser des questions. Avec Dieu ou sans Dieu, nous sommes plongés dans le mystère, parce que le temps qui passe et que la mort est là, le mystère est notre lot. J'ai beaucoup aimé le passé. J'ai toujours préféré l'avenir. J'ai passé mon temps et ma vie à espérer autre chose, au-delà de ce monde et au-delà de la mort, j'espère encore, mais quoi? Quel est le salut de cette éternité que nous ne pouvons le savoir, mais nous avons le droit d'espérer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette salle qui veut ce brouillard? Eh bien, par grâce, uniquement par grâce, nous croyons que nous avons une révélation de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous parle, ce Dieu infini, ce Dieu si grand, ce Dieu insaisissable, eh bien, a parlé aux hommes. Et la Bible, et à l'intérieur de la Bible, on peut dire l'Évangile, c'est le message de Dieu pour les hommes. Nous le croyons, mais c'est immense. C'est un pas immense. Il y a des gens qui connaissent bien la Bible. Cet académicien connaît la Bible. C'est impossible autrement. Oui, mais c'est un exemple qui nous montre que l'intelligence, parce que ça, c'est une sommité intellectuelle. Il n'y en a pas beaucoup d'académiciens dans la salle. Bon, eh bien, ça ne suffit pas pour avoir la connaissance des justement pour résoudre ces énigmes existentielles. Ça ne suffit pas. Il faut une révélation extérieure à nous. Et nous l'avons par la Bible. Et c'est un message, c'est une bonne nouvelle, c'est un évangile tout entier finalement. Et quand la Bible nous parle, c'est Dieu qui nous parle. Quand je lis la Bible, c'est Dieu qui me parle. Mais c'est immense, ça. On raconte que celui qu'on appelle communément Saint Augustin, évêque d'Hippone, en Afrique du Nord, au IVe siècle, disait qu'il entendait la voix de Dieu lui dire « Ô homme, quand mon Écriture te parle, c'est moi qui te parle. Quod scriptura mea dicit, ego ». Dico. Et en fait, c'est ce que les Thessaloniciens avaient déjà réalisé ça. Dans la première Thessaloniciens, Paul leur dit, nous rendons sans cesse grâce à Dieu de ce qu'ayant reçu de nous la parole de la prédication qui est de Dieu, vous avez accepté non la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement la parole de Dieu. Laquelle aussi opère en vous qui croyez. Nos frères l'ont déjà mentionné, ça. Et c'est un peu comme... Bon, alors certains disent, mais c'est un livre. Ah ben oui, mais c'est un livre, mais il y a Dieu derrière. Je prends une image qui peut nous sensibiliser. Quand on reçoit la lettre de notre fiancée, elle n'est pas là, mais c'est comme si elle était là, c'est sa lettre, hein. Et on lit peut-être entre les lignes. Enfin, il faut lire aussi sur la ligne, mais c'est tout elle derrière ou tout lui. Ben la Bible c'est pareil. C'est une lettre d'amour la Bible. Ça change tout. Et puis aussi il nous faut l'Esprit de Dieu pour la comprendre. Il nous faut la prière. Je peux très bien lire le journal sans prier, pas la Bible. Je ne peux pas lire la Bible, je comprends la Bible sans le Saint-Esprit. C'est tout différent. La Bible, quel livre merveilleux. Alors si Si on nous demande, vous voyez, je suis un peu plus général que mes frères, mais c'est une approche, c'est une autre approche. Parce qu'une synthèse, c'est pas non plus répéter ce qui a été dit. La Bible, c'est un livre merveilleux. Et si on nous demande, à brûle pour point, pourquoi je crois à la Bible? Pourquoi vous croyez à la Bible? Qu'est-ce que vous répondez? Bon, c'est intéressant d'être un petit peu prémuni de ça. Il faut réfléchir à ça. Pourquoi je crois à la Bible? Bon, je lance quelques pistes. Il y a des raisons externes à la Bible. D'abord, la formation du canon. C'est une merveille, la formation du canon. 66 livres, rédigés par environ 40 auteurs, sur environ 15 siècles, des auteurs qui, pour la plupart, ne se sont jamais connus, et ça forme une unité. C'est une merveille. Et en plus, une progression dans la révélation. Unité, progression. Donc, la formation du canon. Pourquoi il y a cette unité? Parce qu'il y a un esprit maître qui a présidé à la rédaction. Cet esprit maître n'est autre que l'esprit de Dieu. Deuxièmement, la transmission. Nous ne nous rendons pas compte souvent la merveille qu'est la Bible, que nous ayons des Bibles là, tant que nous voulons, dans leur intégrité, dans leur intégralité. Et ça, c'est un sujet qui est très, très intéressant à fouiller, ça. La transmission de la Bible au cours des siècles. Alors, je n'étonnerai personne si je dis que nous n'avons aucun autographe de la Bible. C'est-à-dire que nous n'avons aucun manuscrit de la plume de Jérémie, d'Ésaïe. Nous n'avons rien de la plume des apôtres. Même de l'apôtre Jean qui a écrit le dernier. Rien. Mais par contre, nous avons des... Alors, la Bible nous est parvenue par trois voies différentes. Les copies, les manuscrits. Donc, la Bible a été copiée, recopiée, avec un soin extrême. Et les spécialistes nous disent qu'il n'y a pas de texte de l'Antiquité qui a été copié autant que la Bible. Donc, nous avons des documents très, très importants, je crois, 5 ou 6 000 manuscrits. Alors, premièrement, des copies. Des manuscrits. Deuxièmement, des traductions. La Bible a été traduite. Mais heureusement qu'elle a été traduite, parce que si elle n'était pas traduite, on ne pourrait pas la lire, nous, qui ne connaissons ni l'hébreu ni le grec. Elle a été traduite, et même au temps de Jésus, il y avait une traduction. Et il s'est fondé sur une traduction, qui n'était pas la traduction des Septante, qui n'était pas parfaite. Enfin, il y avait déjà des variantes. Et troisième voie par laquelle la Bible nous est parvenue, les citations. Les citations des pères de l'Église qui sont même antérieures à certaines traductions. Donc, ça, c'est un sujet magnifique et on conseille aux jeunes qui sont là de fouiller ça, parce que c'est pas anodin que nous ayons. On est plein de reconnaissance après d'avoir une Bible dans notre langue et qui est intégrale et sur laquelle nous pouvons nous fier. C'est important puisque notre salut éternel repose sur ce livre. C'est pas rien. Alors, peut-on se fier à la Bible? Oui, il faut savoir si on peut s'y fier. Sur l'importance de la parole de Dieu, sur l'importance de la révélation, si c'était encore nécessaire, après tout ce qu'on a entendu, j'aimerais encore enfoncer le clou d'une autre façon. Qu'est-ce que nous ferions pour connaître cette merveilleuse personne du Seigneur Jésus, de sa naissance miraculeuse, de sa vie parmi les hommes, de son ministère si riche et si court et si riche, de sa mort sur la croix, à la fois honteuse et triomphante, de sa glorieuse résurrection dans la lumière du matin de Pâques? Qu'est-ce que nous serions de tout cela sans les évangiles? Comment nous sommes sauvés et pourquoi nous sommes sauvés sans l'Épître aux Romains? Comment nous conduirions-nous en Église? Comment vivrions-nous une vie d'Église à la gloire de Dieu sans la première épître aux Corinthiens. Comment aurions-nous connaissance de l'espérance spécifique de l'Église sans la première épître aux Thessaloniciens? Comment connaîtrions-nous tout le conseil de Dieu concernant Christ et l'Église unie à lui sans l'épître aux Éphésiens? Comment connaîtrions-nous les offices du Seigneur Jésus à l'heure actuelle où je parle dans le ciel sans l'épître aux Hébreux? Comment connaîtrions-nous la façon dont il faut se conduire dans l'Assemblée de Dieu, qui est l'Assemblée du Dieu vivant, dans une période où il y a des défections, des difficultés de toutes sortes dans l'Église, sans les épîtres à Timothée et à Tite? Comment connaîtrions-nous les fondements du christianisme quand ils sont battus en brèche par les antichrists sans les épîtres de Jean? Et enfin, comment connaîtrions-nous les choses qui vont arriver bientôt et surtout la révélation de Jésus-Christ sans l'Apocalypse? Je serai un peu plus général. Comment traverser ce monde de péché, de corruption, où nous avons besoin tous les jours d'être sanctifiés sans la parole? J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche pas contre toi. Comment traverserions-nous les épreuves de la vie, les coups durs, de toutes sortes, sans la parole? J'aurais péri dans mon affliction, ta parole m'a fait vivre. Comment serions-nous consolés dans nos deuils autour d'une tombe qui est ouverte et qui va se refermer sans la parole? Et c'est peut-être là qu'il y a une grande différence. Parce qu'on entend quelquefois, justement, dans ces situations, des discours désespérément creux qui ne consolent personne. Et le chrétien, il n'est pas plus fort que les autres. Il souffre. Il y a de la place pour la souffrance quand on est au bord d'une tombe, mais pas pour le désespoir. Pourquoi? À cause de 1 Corinthiens 15, 1 Thessaloniciens 4, Philippiens 1, et surtout la fin des évangiles qui nous montre le Seigneur glorieusement ressuscité. C'est ça qui nous console, c'est la parole, enfin, ce qu'il y a derrière elle. C'est le message qui nous console et qui nous relève dans nos deuils et qui nous sauve du désespoir. Il nous apporte une espérance. Et c'est là qu'on voit la différence avec les incroyants qui n'ont rien au bord d'une tombe. Pas de consolation. Nous trouvons tout dans la parole. Mais j'en ai assez dit sur l'importance de la parole et qui est une bonne nouvelle, globalement. Alors, certains disent, oui, encore ceci. Certains disent, l'Ancien Testament, c'est difficile. Oui et non. Il faut en saisir la trame de l'Ancien Testament. On peut très bien résumer l'Ancien Testament, et d'ailleurs, c'est un petit exercice pour tous les prédicateurs, on peut très bien résumer l'Ancien Testament en 180 secondes. L'Ancien Testament s'ouvre par la présentation glorieuse de la majesté divine du Créateur. Il crée tout, les mondes, et puis l'homme et la femme, le premier couple sur la terre. Mais voilà que ces deux se rebellent contre Dieu, parce qu'il les a créés libres, ils ont le droit de dire non à Dieu. Mais au lieu de les juger, Dieu les amène à la repentance. Tous les deux, ils disent, j'en ai mangé, j'en ai mangé. C'est alors que Dieu promet un libérateur, la descendance de la femme qui viendra briser la puissance qui les a fait tomber. La route sera longue jusqu'à Bethléem, très longue. Mais Dieu réitérera ses promesses, cette promesse, plusieurs fois. Il en donnera des types, des représentations, Notre part, cette lignée s'inscrira dans trois cercles concentriques. L'histoire chaotique des nations, plus petit, l'histoire non moins chaotique d'un peuple Israël, et puis, un petit cercle, l'histoire de famille, qui parfois aussi aurait été chaotique, cette lignée de la foi qui va aboutir à Bethléem. Voilà la trame de l'Ancien Testament. Tout s'articule là-dessus. Pourquoi cette lignée-là qui aboutit à Bethléem? Parce que Dieu n'oublie jamais son plan. Et ça, c'est une pensée toute simple, mais tellement rassurante. Encore aujourd'hui, dans notre monde, Dieu n'oublie jamais son plan. Nous ne pouvons l'oublier, pas Dieu. Bon, j'en ai assez dit sur l'importance de la parole. Maintenant, se pose le problème. Comment s'emparer de ce message? Il est là. Comment s'emparer? L'idéal, ce serait d'avoir, et là je vais devenir de plus en plus pratique, hein. J'ai commencé très très loin, mais je vais terminer très pratique. L'idéal, ce serait d'avoir un moment de recueillement journalier devant la parole, c'est-à-dire devant Dieu, avec prière, en pensant que ce n'est pas nous qui étudions la parole, mais c'est la parole qui nous étudie. Ça change tout. Et c'est que c'est une conversation avec Dieu, que c'est un échange, que c'est une relation. On y a beaucoup insisté, et c'est fondamental. Alors comment avoir ce petit moment de recueillement chaque jour? Nous aspirons peut-être tous, mais... Et alors là, je ne veux pas être accusé de... Je ne veux pas qu'on m'accuse d'être sur mon petit nuage. Je veux descendre dans la pratique. Alors, c'est peut-être la mère de famille qui est surchargée. Le matin, il faut qu'elle emmène les enfants à l'école, et peut-être même avec une poussette du dernier-né. Et elle s'est peut-être levée la nuit pour le dernier-né. Et puis, un autre moment, une autre plage horaire, il faut qu'elle emmène les grands à l'école de musique ou chez le dentiste. Et puis, il faut qu'elle fasse toute la lingerie, la cuisine. Et le ménage. Tout ça, sans oublier son couple. Elle est surchargée. Elle est épuisée. C'est peut-être aussi son mari qui est ouvrier ou cadre. Il part tôt le matin, il rentre tard le soir. Et lui aussi, s'il rentre tous les soirs encore, et lui aussi, il est épuisé, il est fatigué. C'est peut-être le chef d'exploitation agricole. Lui, il fait pas 35 heures, il en fait le double. C'est peut-être l'étudiant ou l'étudiante qui travaille d'arrache-pied pour décrocher ce concours ou cet examen. C'est peut-être même le ou la missionnaire qui n'a pas une minute pour se ressourcer parce qu'il y a des gens qui viennent au dispensaire. Les besoins sont immenses, il faut y répondre. J'ai même entendu qu'il y avait des retraités qui étaient surchargés. Ça, c'est un peu le comble. Bon, enfin, que dire à tous ces chrétiens, que leur dire sans les placer sous un régime légal, il faut que je lise la Bible. D'ailleurs, j'aime pas trop cette expression, lire la Bible. Je préfère une plus belle. C'est donner un peu de temps à Dieu pour qu'il nous parle. Il faut la retenir, cette expression. Donner un peu de temps à Dieu pour qu'il nous parle. Mais alors comment? Nous avons vraiment besoin d'aide dans ce domaine, hein, les uns et les autres. Eh bien, vous savez, j'ai une bonne nouvelle. Dieu nous aide. Vous savez comment? En nous envoyant des épreuves, des difficultés, des coups durs. Alors, disons, Seigneur, aide-moi vraiment, parce que là, je m'en sors pas. Où est ma Bible? Il faut que tu me parles, Seigneur, sinon je sombre. Eh bien, sans nous en rendre compte, nous avons repris le chemin que nous aurions peut-être pas dû quitter. Ou nous ne l'avons jamais pris, c'est le moment de le prendre. Et alors, on se met devant Dieu. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu dans un feuillet une pensée intéressante où l'auteur disait « 5 minutes devant Dieu peut changer la journée ». Pour réfléchir à ça. Alors, vraiment, si nous devons enseigner la Bible, ce n'est pas 5 minutes, hein, il va falloir passer des heures et des heures. Mais je parle pour vivre. Pour vivre. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Les gens, ils vivent pas avec ce verset. Non, non. Ils existent. Mais la vie dont parle Jésus, c'est vraiment par la parole. Et là, en face de Satan. Comment résisterions-nous à Satan sans la parole, alors que Jésus a magnifié la parole, il a cité 3 fois la parole, cité 3 fois le Deutéronome. Il est écrit. Dans notre région, il est arrivé, il y a une période où on brûlait des Bibles. Au temps des persécutions, brûler des Bibles quand on les trouvait. Mais vous savez qu'il y a quelque chose de plus grave que le feu pour la Bible, la poussière. Et il y a quelque chose de plus grave que la poussière pour la Bible, vous savez quoi? La désobéissance. Pourquoi la Bible a cette autorité encore, cette autorité qu'il doit avoir sur nous? Parce qu'elle est inspirée. Même si vraiment l'inspiration, ce que nous appelons l'inspiration biblique, ça reste un mystère, quelque part aussi. Mais nous croyons que Dieu, comme l'apôtre Pierre le dit, Dieu a poussé des hommes, de saints hommes de Dieu, a poussé à écrire par l'Esprit Saint. Alors, nous ne croyons pas à l'inspiration mécanique, c'est-à-dire que Dieu a inspiré les mots. Mais il a guidé les auteurs, tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'il a guidé les auteurs pour écrire sa pensée. Et d'ailleurs, ceux qui lisent la Bible en grec et en hébreu nous disent qu'on reconnaît le style de l'auteur. Ça veut bien dire que Dieu les a conduits, mais sans les vider de leur personnalité. Ça, c'est capital, c'est fondamental. Alors, on aborde la Bible d'une autre façon. Est-ce qu'il y a un espoir pour un croyant, pour une église, pour chacun de nous, pour la nouvelle génération? Est-ce qu'il y a un espoir seulement si on fait référence à la parole de Dieu, si on la prend comme critère d'autorité? Et ce verset d'Ésaïe 8 est d'une actualité brûlante. Parce qu'il dit, à la loi et au témoignage, c'est-à-dire s'ils ne font pas référence à la parole, il n'y a pas d'aurore pour lui. Si dans une église, on conteste l'autorité de la parole de Dieu, dans quelques années, à coup sûr, cette église sera libérale. Elle va s'éloigner toujours plus. Et certains disent, il y a des déviations de toutes sortes, certains disent, la parole de Dieu est dans la Bible, mais les deux ne se recouvrent pas. Ah, mais c'est à tout prendre ou à tout laisser. Nous croyons à l'inspiration, à l'autorité des Saintes Écritures, de Genèse 1 jusqu'à Apocalypse. Des choses fondamentales qui touchent à notre salut, qui touchent à la croix, jusqu'à cette parole où Paul dit à Timothée, apporte-moi ton manteau. Ça, c'est aussi inspiré. Parce que justement, c'est la merveille de la Bible, c'est que c'est un message divin, mais il n'est pas désincarné. Il est pétri d'humanité. Et quand on a froid, on comprend l'importance. Ça montre que Dieu s'occupe des petits détails de notre vie. C'est merveilleux, sous ce rapport, la Bible. Bon, il faut que je termine. Je termine par 2 témoignages encourageants. Encourageants pour les jeunes qui sont là. Encourageant pour les parents et les grands-parents. Les jeunes aussi, stimulants. Encourageant et stimulants. Cette jeune fille, manifestement, elle n'avait pas, dans sa vie personnelle, elle n'avait pas donné beaucoup de temps à Dieu pour qu'il lui parle. Et d'autre part, elle avait pas profité des réunions de l'église locale, ce que nous appelons nos petits des entretiens. Alors, dans cette petite assemblée, il n'y avait pas des dons spectaculaires, mais n'empêche que une intervention, une explication riche, plus une explication riche, plus une autre, eh bien, ça faisait une rencontre où il y avait de la nourriture spirituelle. Et voilà que cette jeune fille n'était pas là. Nous déplorions son absence. Et ayant négligé ces deux moyens de base pour croître dans la connaissance des pensées de Dieu, eh bien, ce qui devait arriver, arriva. À 25 ans, cette jeune fille s'aperçut qu'elle avait une grosse lacune pour la connaissance de la Bible et des pensées divines. Elle l'a d'autant plus réalisé, cette lacune, que son mari, lui, y avait une solide connaissance biblique. Et donc, qu'est-ce qui lui restait? Ayant négligé les deux premiers, qu'est-ce qui lui restait? Eh bien, il lui restait l'Institut biblique. Et elle s'est inscrite à un institut biblique, en 6 mois, je crois. Et je me souviens bien le jour où elle nous a dit « Ah, mais j'aurais jamais pensé qu'il y avait des si belles choses dans le livre de Josué. » Ben oui, il y a des belles choses dans le livre de Josué, même dans les autres livres. Mais peut-être qu'il faudrait se mettre un peu à l'ouvrage. Et un autre exemple, une autre jeune fille, bien, deux jeunes filles, et les jeunes gens, ils sont où? Il faudrait peut-être qu'ils se bougent un peu, sinon ils seront en fin de course. Une jeune fille qui lisait sa Bible dans un internat d'un lycée de la région. Et d'ailleurs, j'ai appris qu'elle était là. Elle lisait sa Bible, et il y a une copine qui lui dit « Qu'est-ce que tu lis là ?» Ben, je dis « Je lis la Bible. » Et bien maintenant, cette copine, elle est dans une église de la région. C'est le point de départ de sa recherche de Dieu. C'est des fois pas très compliqué, le témoignage chrétien. Mais il faudrait qu'on soit attaché à la parole de Dieu. Et qu'on n'ait pas honte de la parole de Dieu et de l'Évangile. Et c'est encourageant. Le tout dernier mot. Quel privilège nous avons d'avoir la lumière de la révélation. Je pense qu'on sent là le besoin de remercier immédiatement Dieu. On se recueille devant lui. Dieu et Père, c'est vrai que nous sommes tout petits dans l'immensité du cosmos. Nous sommes insignifiants. Mais pourtant, nous avons été faits à ton image, capables de communiquer avec toi, de comprendre cette révélation que tu nous as faite par le Seigneur Jésus et par la parole écrite. Nous sommes capables d'avoir une relation avec toi, alors que les êtres vivants n'ont pas cette capacité, si beaux soient-ils. Ils ont des instincts, mais nous avons beaucoup plus. Dieu et Père, merci pour cette révélation extraordinaire de ta pensée, de tes pensées, d'amour, de grâce, de miséricorde envers nous. Tu ne voulais que du bien. Tu voulais notre relèvement. Tu voulais une relation avec toi. Tu ne voulais pas que nous soyons comme des étoiles errantes, abandonnées à leur sort. Alors tu nous as donné Jésus. Merci pour ce don ineffable de ton cœur. C'est lui qui a traduit tes pensées pour nous. Il fallait à la fois qu'il soit homme et Dieu pour traduire ses pensées, pour te révéler, pour t'annoncer. Et il a dit exactement ce que tu étais. Il était ce que tu voulais nous donner. Merci pour l'œuvre de la croix dans laquelle tu as trouvé un fondement juste pour nous pardonner justement, tout en manifestant ta grâce et ton amour tout à la fois. Merci pour sa glorieuse résurrection qui nous montre que la mort n'aura pas toujours le dernier mot. Cette mort qui nous fait pleurer aujourd'hui a été vaincue là, et il est maintenant l'homme ressuscité au-delà de la mort. Merci parce que notre espérance est en lui. Et comme il est sorti, tous nos bien-aimés sortiront, et nous, si nous devons passer par la mort. Merci pour le don du Saint-Esprit qui nous éclaire la parole, sans lequel nous ne pouvons pas comprendre, ne serait-ce que avec notre intelligence seule, si développée soit-elle pour certains. Dieu et Père, merci pour l'espérance de l'Église, d'être réunis un jour tous ensemble avec le Seigneur pour ce banquet des noces de l'agneau, avec les images de la terre, de la joie d'un jour de noces sans nuages. Merci pour ta parole qui nous entretient de tout cela. Mais à notre reconnaissance profonde, nous joignons aussi nos prières pour que tu nous aides à nous emparer de cela, chacun ici. Et tu vois que ce monde dans lequel nous sommes est compliqué. Il y a tant de choses qui nous prennent du temps précieux. Et il y a aussi les obligations matérielles. Tu vois que c'est beaucoup plus compliqué qu'autrefois dans notre monde moderne pour avoir ce moment de recueillement devant toi chaque jour. Mais aide-nous, Dieu et Père. Aide-nous à ne pas attendre les coups durs, les épreuves pour venir devant toi, parler avec toi, nous entretenir avec toi, te louer, te bénir pour toutes ces merveilles. Et puis, bien sûr, aussi pour te demander du secours pour notre marche de tous les jours et pour notre marche d'église. Dieu et Père, merci pour tout ce que tu veux nous accorder et surtout pour tout ce que tu es pour nous et tout ce que le Seigneur Jésus est pour nous. Loué soit ton nom par le précieux nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. Amen.